Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne. C'est l'heure de retrouver l'émission sur les droits humains pour la dignité. C'est avec Régis Coulanges, responsable de formation Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette émission, nous allons parler d'abord un hommage à Françoise Hardy. J'ai choisi plusieurs chansons d'elle. Et puis on va parler bien sûr des élections législatives anticipées, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'elle est beaucoup remise en cause, et puis de répression en Russie, du conflit Israël-Gaza, et notamment des ventes d'armes par la France à Israël. Et puis on parlera de la journée mondiale des réfugiés et des activités du groupe. Alors, pour commencer, les élections législatives en France, c'est un moment crucial pour notre pays et pour les droits humains. Dans la foulée des élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. Ce retour aux urnes est crucial pour notre pays et pour les droits humains. Nous savons l'importance considérable qu'a l'Assemblée nationale, cœur du pouvoir législatif, pour garantir à chacun et chacune le plein exercice de ses libertés et de ses droits. Or, ces libertés et ces droits sont de plus en plus fragilisés. C'est le constat alarmant que nous faisons depuis des années et qui s'aggrave à mesure que le narratif ultra-sécuritaire déployé par les responsables politiques successifs prend le dessus sur la défense des droits fondamentaux. Nous alertons sur l'état des libertés en France, en particulier sur les entraves à la liberté d'expression, au droit de manifester et aux libertés associatives, et sur les risques majeurs liés aux technologies de surveillance de masse. Nous dénonçons le déni des autorités sur les discriminations raciales alimentées par des discours racistes et stigmatisants contre des personnes étrangères ou racisées. La lutte contre ces discriminations doit être au cœur de l'action publique. Nous appelons à prendre urgemment conscience des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'état de droit, alors que certains responsables politiques n'hésitent pas à remettre en cause ou à piétiner des obligations internationales qui servent à protéger nos droits fondamentaux. Des décisions ou positions qui sont contraires à celles de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, nous insistons sur le fait que la politique étrangère de la France doit être exemplaire en matière de respect du droit international. Elle doit mettre la protection des populations civiles et la lutte contre l'impunité au centre de son action dans des situations de conflit. Aujourd'hui, face à la montée en puissance des discours de haine et anti-droit, nous alertons sur le risque d'un recul de plus en plus important de nos libertés et de nos droits en France. Si nous défendons ces droits, ce n'est pas seulement parce qu'ils découlent des engagements internationaux de la France, c'est parce qu'ils sont le fondement d'une société apaisée, respectueuse de toutes et tous, permettant à chaque personne de réaliser ses aspirations et d'y jouer pleinement son rôle. Ils sont indispensables pour protéger nos libertés et notre dignité contre l'arbitraire. Ces droits, même lorsqu'ils semblent acquis, peuvent être remis en cause. Ils sont fragiles et il est essentiel de continuer à se battre pour les protéger. Dans cette période d'incertitude, Amnesty International France appelle chacun et chacune à prendre en compte ces enjeux essentiels et à participer à ce moment politique crucial en exigeant des engagements clairs de ses futurs représentants pour défendre les droits de toutes et tous et refuser les pratiques autoritaires. Dans les semaines qui viennent et au-delà, Amnesty International France restera mobilisée et vigilante quant au respect des droits humains et des engagements internationaux de la France. On va écouter donc une première chanson de Françoise Hardy, L'amitié.
Et la fidélité des oiseaux de passage, dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Partir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à toi. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer.
Voilà, donc je vous parlais des atteintes à nos droits. Il y a une atteinte à la liberté d'expression là, qu'on vient de voir récemment. C'est le limogeage de Guillaume Meurice, cet humoriste de France Inter. Et ce limogeage a entraîné aussi des départs volontaires donc en soutien à Guillaume Meurice, des départs de France Inter, d'autres humoristes. Voilà, alors Guillaume Meurice, il y a quelques années, avait enregistré pour Amnesty International une petite vidéo, ça s'appelle « Voir pour comprendre », sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous voyez qu'il était attaché aux droits humains. Et je me suis dit, comme beaucoup de droits sont remis en cause dans ce pays, alors on dit que la France est le pays des droits de l'homme. En fait, il faut un peu nuancer. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays où a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui, justement, voulait que plus jamais on ait des horreurs à la suite des découvertes, notamment des camps de concentration et toutes les horreurs qu'il y avait eues à la Seconde Guerre mondiale. Donc les États s'étaient réunis à Paris pour faire cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui, pour Amnesty, est le socle de son action. Et donc, c'est bien de réentendre Guillaume Meurice nous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de voir aussi que ce n'est pas forcément l'Europe qui est à l'origine des droits. Vous verrez dans l'explication qu'il y avait déjà, notamment en Afrique, des traités très anciens qui protégeait déjà des droits. Donc on va écouter Guillaume Meurice dans cette émission que vous pouvez voir aussi sur le site d'amnesty.fr.
Voir pour comprendre, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Emprisonnement injustifié de journalistes en Turquie, situation effroyable des civils en Syrie, traitement inhumain des réfugiés en France. Les violations des droits humains ne cessent de faire la une de l'actualité. Alors quels sont ces fameux droits si souvent invoqués et si rarement respectés? Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. C'est comme ça qu'au bout de 4 ans de travail acharné, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par les Nations Unies. Retranscrit dans plus de 500 langues, c'est un des textes les plus traduits au monde. Mais cette déclaration ne sort pas de nulle part. Plusieurs textes, tout au long de l'histoire des sociétés humaines, ont posé des règles de vie communes. Le cylindre de Cyrus, écrit en Perse en 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. La charte du Mandé en Afrique de l'Ouest, élaborée au XIIe siècle, incluait les principes d'égalité, le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice et interdisait l'esclavage. La Magna Carta, rédigée en 1215, prévoyait pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. En Angleterre, le Bill of Rights de 1689 mettait la loi au-dessus du roi. L'Habeas Corpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus, d'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. D'ailleurs, on parle de droits de l'homme ou de droits humains ? Avant d'aller plus loin, un petit aparté pour comprendre pourquoi il est important de faire la distinction entre droits de l'homme et droits humains. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droits de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ces droits. Même si ce n'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression « droits de l'homme » conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression « droits humains » depuis 1997. Alors quels sont précisément ces droits ? Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité. Le but de l'ensemble de ces droits est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ces droits sont répartis entre la première, la deuxième et la troisième génération. Les droits de la première génération, ou droits civils et politiques, remontent aux déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du XIXe siècle. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. Les droits de la troisième génération, droits collectifs ou solidaires, émergent dans les années 70. Ce sont les droits au développement, à la paix, à un environnement propre et sain, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quels sont donc les grands principes qui régissent ces droits ? Nous avons tous une vision personnelle des droits humains. Elle est issue de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. C'est pourquoi, pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux, quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Universels. Ça signifie qu'ils s'appliquent à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut faire valoir tous ses droits et toutes ses libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça signifie que tous les droits humains ont la même importance. Personne ne peut décider que certains droits sont plus importants que d'autres. Et l'atteinte à un droit a des répercussions négatives sur les autres droits. Prenons un exemple. Si t'as pas de maison, donc tu dors dans la rue, tu dors mal, t'as froid, tu risques de te faire agresser, tu tombes malade, si t'es un enfant, tu vas pas à l'école, si t'es un adulte, tu trouves pas de travail. Donc la violation du droit au logement entraîne celle du droit au repos, aux soins, à l'éducation, au travail et bien d'autres encore. Inaliénable ou inné. Ça signifie que les droits humains ne peuvent pas être retirés. En aucune circonstance, pas même dans des situations d'urgence ou en temps de guerre. Ils sont inséparables de l'existence de l'homme qui les possède dès sa naissance, du simple fait d'être un être humain. Où en sommes-nous aujourd'hui ? On peut se réjouir. Au XXe siècle, de nombreux progrès ont été réalisés. La peine de mort est abolie dans un nombre croissant de pays. Des instances internationales, comme la Cour pénale internationale, sont mises en place. Le traité sur le commerce des armes permet un contrôle de plus en plus efficace. Le mariage pour tous devient légal dans certains pays. Et de plus en plus de gens ont conscience qu'il est impensable de vivre comme si ce qui se passe à l'autre bout du monde ne nous concernait pas. Bon, on se réjouit pas trop longtemps non plus, parce que malheureusement, dans de nombreuses parties du monde également, des personnes sont emprisonnées ou tuées pour leur opinion, la torture est encore pratiquée, des millions de gens subissent des discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe, des milliers de personnes fuient quotidiennement des pays en guerre sans trouver l'asile et la protection qui leur est due dans d'autres pays. Il faut bien comprendre que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal, un fabuleux idéal à atteindre par les nations et les peuples qui s'y engagent moralement. C'est pas un texte de loi, c'est un texte non contraignant qui n'est pas valable devant un tribunal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet idéal devienne une réalité ? Faire triompher l'idéal des droits universels, c'est une affaire de conscience collective et de responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous pour le bien de tous. C'est un fait, la déclaration est contestée et attaquée tous les jours. Elle n'est pas respectée dans sa globalité, alors que chaque violation nous fait courir le risque de plonger dans la barbarie. Alors oui, n'ayons pas peur de refuser toutes les dérives, sans exception. Si on subit une discrimination parce qu'on est différent, c'est inadmissible. Si quelqu'un est arrêté sans raison, c'est inadmissible. Si quelqu'un est battu dans un commissariat, c'est inadmissible. Si un enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il est rom, c'est inadmissible. Au niveau national, le rôle des États est bien entendu primordial. Ils doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dépendent de leur juridiction bénéficient effectivement des droits garantis par le texte. Pour participer activement à l'application de cet idéal, beaucoup ont traduit ce texte international dans leur loi nationale. Cependant, il faut rester attentif car certains gouvernements, au nom de leur culture, ont adopté des lois nationales en contradiction avec des principes relevant de droits fondamentaux. Par exemple, les lois qui condamnent l'homosexualité. Parfois même, la déclaration sert d'excuse à des décisions qui la contredisent. C'est par exemple le cas de l'ouverture de la tristement célèbre prison de Guantanamo, ou plus globalement des lois dites antiterroristes. Pour faire front à la menace terroriste, de nombreux États n'hésitent pas à limiter des libertés fondamentales. Au niveau international, il est essentiel de traduire en justice les auteurs de violations des droits humains. Sans justice, la paix et le respect des droits fondamentaux sont impossibles. Tant que les auteurs de crimes font ce qu'ils veulent sans jamais être punis, des enfants continueront d'être recrutés pour faire la guerre, des femmes seront violées et maltraitées, des villages entiers continueront d'être pillés et saccagés. Et pour que les victimes obtiennent réparation, il faut que les préjudices causés soient reconnus par la justice. Il existe aussi de nombreuses conventions qui ont été signées pour compléter et renforcer la déclaration. Des textes à portée universelle et à valeur juridique qui permettent de protéger un groupe particulier de personnes, comme les femmes, les enfants ou les migrants, ou de pallier une situation particulière. Lutte contre la torture, discrimination raciale. Le chemin est encore long avant que cet idéal devienne une évidence. Chaque pas accompli, chaque victoire obtenue nous en rapproche. Chacun d'entre nous peut devenir un acteur essentiel de cette évolution. Pour cela, il suffit jour après jour de s'engager en revendiquant haut et fort la liberté d'expression, en manifestant ou en signant des pétitions, en partageant des informations, en refusant systématiquement toutes les discriminations. Comme le disait Kofi Annan, les droits de l'homme sont des droits que toute personne possède en tant qu'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Nous méritons tous les droits de l'homme. L'un ne va pas sans l'autre.
Voilà, c'était bien de rappeler cette Déclaration universelle des droits de l'homme et puis de rendre hommage à Guillaume Meurice qui a prêté sa voix pour faire connaître cette déclaration et voir d'où elle vient et combien elle est menacée de nos jours. Voilà, on va maintenant écouter Françoise Hardy qui chante en duo avec Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage.
Il la remercie hein, de l'avoir accompagnée à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ses journaux, ses cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. Tous les jours
et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi, je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure. S'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour son bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Voilà, très beau duo sur cette belle chanson sur l'amour. On va parler maintenant de la Russie, d'une forme de répression qui est peu documentée. Les enfants sont la nouvelle cible des autorités. Les enfants de parents qui s'opposent à la guerre en Ukraine encourent le risque d'être placés en orphelinat. Voici l'une des méthodes de représailles des autorités russes pour écraser la dissidence. « Vos enfants iront en orphelinat », c'est le titre de notre recherche qui expose comment les autorités russes instrumentalisent les enfants et leurs familles pour les dissuader de s'opposer à la guerre en Ukraine. Parmi les méthodes employées, l'endoctrinement via la propagande de guerre, séparation des familles, menace de retirer des droits parentaux. En Russie, la menace est l'une des armes de répression du Kremlin. Certaines familles russes n'ont d'autre choix que de quitter leur pays pour éviter des poursuites pénales ou une séparation forcée. Nos équipes de recherche ont rencontré certaines d'entre elles. Varvara Galkina a 10 ans. Elle a affiché un dessin en soutien à l'Ukraine sur WhatsApp. Le 5 octobre 2022, la petite fille est interrogée par la police de Moscou. La raison de l'interrogatoire ? Sa photo WhatsApp et surtout l'absence de Varvara à un cours organisé par l'école qui avait pour but d'endoctriner les enfants et auquel Varvara ne s'était pas rendue. Résultat, perquisition du domicile et menace directe à sa mère, Eliana Jolicoeur. La répression des autorités russes se déploie. Elena est obligée de participer à un programme de prévention pour les parents qui ne remplissent pas correctement leurs devoirs. Elena fait alors le choix de fuir la Russie avec ses deux filles, craignant d'être à nouveau persécutée. Elle nous a dit « Je ne veux pas que ma fille vive une double vie » et prétende qu'elle est d'accord avec le gouvernement et qu'elle soutient la guerre. Maria Moskalyova, elle a 12 ans. Dans son école en Russie centrale, elle fait un dessin hostile à la guerre, alors qu'il lui avait été donné pour consigne par son école de faire un dessin en soutien aux troupes russes en Ukraine. L'administration scolaire fait immédiatement un signalement à la police. Le père et la fille sont ensuite tous deux immédiatement arrêtés. Son père, qui l'élève seul, est condamné à une amende pour le dessin de sa fille. Le père de la jeune fille est ensuite condamné à une peine de 2 ans d'incarcération pour discréditation répétée des forces armées russes à cause de commentaires postés sur les réseaux sociaux. À la suite de cette campagne, des voix anti-guerre de la famille Moskalyova, la jeune fille de 12 ans est séparée de son père et placée en orphelinat. Dans un tollé général, elle a finalement été autorisée à vivre avec d'autres membres de sa famille, mais Maria est toujours séparée de son père, de force. Le chercheur sur la Russie nous dit « Dans cette Russie, si vous êtes mineur et que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, la police, les tribunaux et même les écoles représentent une menace immédiate. En visant des mineurs, les autorités russes viennent cibler l'éducation. Les écoles et les enseignants sont utilisés par le Kremlin comme des outils à part entière de leur stratégie répressive et d'ingérence arbitraire. Notre recherche démontre que les écoles endoctrinent les enfants avec de faux récits imposés par le gouvernement. Un système bien organisé, puisque le corps enseignant dénonce directement à la police et aux services de sécurité, les enfants et les familles qui exprimeraient des opinions divergentes. Une fois repérés et dénoncés, les personnes qui s'opposent à la guerre sont visées par des mesures répressives, comme le placement en institution, les arrestations arbitraires, les perquisitions et les poursuites pénales. Ces mesures ont de graves conséquences sur la santé psychologique et physique des enfants, qui souffrent notamment de troubles liés au stress et au traumatisme causés par ces menaces. Les familles doivent aussi faire face à des répercussions financières, ce qui entraîne des difficultés économiques et peut perturber l'éducation des enfants. En Russie, les personnes prises pour cible pour avoir affiché leur opinion contre la guerre se comptent par milliers. Nous sommes à leur côté pour soutenir leur combat que le Kremlin ne pourra étouffer. Nous appelons les autorités russes à cesser de supprimer les droits parentaux et à cesser de placer des enfants sous la tutelle de l'État pour les punir d'avoir manifesté ou exercé leurs droits. Donc si vous allez sur le site amnesty.fr, vous aurez une pétition qui demande stop à la répression des voix anti-guerre en Russie. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour signer cette pétition et puis d'autres aussi qui sont sur le site. On continue donc avec Françoise Hardy, « Ma jeunesse fout le camp ».
Ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème, et d'une rime à l'autre, elle va bras ballant. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine, et les coupeurs d'osier moissonne mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de Mirliton,
qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois chercher la violette. La pluie tombe aujourd'hui qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête. Mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare. Elle sort de moi-même en silence à pas lents. Ma jeunesse fout le camp, elle a rompu la mare. Elle a dans ses cheveux les fleurs de mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois. Voici venir l'automne, j'attendrai le printemps en effeuillant l'ennui. Il ne reviendra plus et si mon cœur frissonne, c'est que descend la nuit, c'est que descend la nuit. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus ensemble. Ma jeunesse fout le camp au rythme de tes pas. Si tu savais pourtant comme elle te ressemble. Mais tu ne le sais pas, mais tu ne le sais pas.
Voilà un peu de douceur dans ce monde de brut. On va maintenant parler du conflit Israël-Gaza pour faire le point justement sur les demandes de suspension des transferts d'armes à Israël. Pour endiguer cette crise, une solution, mettre fin de toute urgence au transfert d'armes vers Israël. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, notre président Jean-Claude Samouyé alerté sur l'urgence de suspendre toutes les ventes d'armes de la France à Israël. Selon les derniers chiffres, plus de 36 000 personnes palestiniennes sont mortes sous les bombes et assauts de l'armée israélienne, dont plus de 14 000 enfants. Les civils de Gaza subissent une crise humanitaire provoquée alors que 100% de la population souffre d'insécurité alimentaire et que la famine est désormais une réalité, selon la Cour internationale de justice. Alors que le conflit ne cesse de s'intensifier, alimenté par la disponibilité des armes, il est impératif d'agir pour que soit mis un terme à tout transfert d'armes, dès lors qu'il existe un risque sérieux de violation grave du droit international humanitaire et des droits humains, ainsi que d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et durable. C'est pourquoi de nombreuses organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et d'autres acteurs de la société civile, ont engagé des procédures judiciaires dans plusieurs pays. Elles exigent, en plus, l'adoption d'un embargo sur les armes à destination de toutes les parties au conflit en cours. Nous avons déposé le 12 avril 2024 un référé liberté auprès du tribunal administratif de Paris, auquel la Ligue des droits de l'homme s'est associée par une intervention volontaire. Cette action en justice visait à demander la suspension des licences d'exportation de matériel de guerre à destination de l'État d'Israël. Les armes visées, les catégories ML5, matériel de conduite de tir, et ML15, matériel d'imagerie. Il existe clairement un risque que les armes et les équipements militaires que la France exporte vers Israël soient utilisés pour commettre de graves crimes contre des populations civiles dans la bande de Gaza occupée. La France ne peut pas ignorer le fait que des composants français pourraient être utilisés dans la bande de Gaza, car assemblés dans des armes israéliennes. Elle viole ainsi les règles internationales relatives notamment au traité sur le commerce des armes, auquel elle est partie, et risque de devenir complice de violations graves du droit international, qu'il s'agisse de crimes de guerre, voire d'un possible crime de génocide. Le 13 avril 2024, nous avons appris avec regret le rejet de notre demande de suspension en urgence de certaines licences exportation d'armes à destination d'Israël. Le juge administratif a rejeté notre requête, s'estimant incompétent. Ce contentieux vient mettre en exergue l'opacité du gouvernement français en matière de vente d'armes et l'absence de contrôle parlementaire. Ces faits que nous avions dénoncés depuis bien longtemps. Le juge administratif étant incompétent, qu'il est pour examiner les exportations d'armes décidées par le pouvoir exécutif. Nous avons fait appel de ce rejet le 29 avril 2024. Le Conseil d'État a rejeté notre pourvoi, affirmant la décision du tribunal administratif du 13 avril. En parallèle, d'autres requêtes, présentées d'une part par un collectif d'associations et de syndications, dont l'AFPS et ATTAC, et d'autre part les ONG, AZER, STOP, Fueling War et A4 France, ont également été rejetées. Ces démarches contentieuses s'inscrivent dans un contexte de très grave violation du droit international humanitaire, justifiant une urgence dans la réponse de la justice. Tous les États partis à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, dont la France, ont l'obligation de prévenir la commission d'un génocide et de s'abstenir de contribuer à sa commission. Vous pouvez signer notre pétition pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils, toujours en allant sur le site amnesty.fr. Avec 69% des importations, les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes d'Israël à l'échelle mondiale. Dans une note d'information soumise au gouvernement américain, dans le cadre du mémorandum de sécurité nationale, Amnesty International USA démontre que des armes fournies par les États-Unis au gouvernement israélien ont été utilisées dans le cadre de graves violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits humains, et d'une manière incompatible avec le droit et la politique des États-Unis. Le règlement exige que les partenaires étrangers des États-Unis en matière de sécurité, tels qu'Israël, garantissent au département américain d'État et de la Défense qu'ils ne bloquent pas arbitrairement l'aide humanitaire américaine et ne violent pas le droit international humanitaire. Les secrétaires d'État et de la Défense doivent ensuite déterminer si ces assurances sont crédibles. Afin de respecter les lois et les politiques américaines, les États-Unis doivent immédiatement suspendre tout transfert d'armes au gouvernement d'Israël. Defense of Children International, Palestine, Al-Haq et le CRR ont intenté une action en justice devant le tribunal fédéral américain contre l'administration Biden pour manquement à son devoir de prévenir le génocide en cours commis par le gouvernement israélien contre les plaignants, leurs familles et les 2,2 millions de Palestiniens et Palestiniennes à Gaza, et pour complicité de génocide. Selon les plaignants, de nombreux dirigeants gouvernementaux israéliens ont exprimé clairement des intentions génocidaires et ont employé des expressions déshumanisantes pour se référer aux Palestiniens et Palestiniennes, les qualifiant notamment d'animaux humains. L'affaire a malgré tout été rejetée pour des raisons de compétences liées à la conduite des relations extérieures de l'administration, mais le juge a imploré l'administration Biden de mettre fin à son soutien indéfectible à Israël. Voilà, c'est en effet incompatible d'appeler à un cessez-le-feu et de continuer de vendre des armes à Israël, comme le fait notamment la France et les États-Unis. On va maintenant écouter une chanson de Françoise Hardy, Tant de belles choses. Même s'il me faut
va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre vie, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Prends ceci quand tu t'endors, l'amour est plus fort. Le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort.
Voilà, une très belle chanson encore de Françoise Hardy. Alors le 20 juin, tous les 20 juin d'ailleurs, c'est la journée mondiale des réfugiés. Donc à cette occasion, le 20 juin 2024, donc jeudi qui vient, le groupe dinois d'Amnesty International, le réseau Éducation sans frontières 04 et l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers de Digne propose au public dinois un ciné-débat autour d'un film « Un pays de papier » de Marion Boé. Ce ciné-débat sera, ce film donc sera suivi d'un débat en présence d'une avocate dinoise qui défend les mineurs non accompagnés. Une collation sera offerte par nos associations à la fin du débat à nos stands installés dans le hall. Alors, de quoi parle ce film ? D'une avocate qui, depuis près de 20 ans, Mélanie, accueille dans son cabinet d'avocate des mineurs non accompagnés et tente de les aider dans la jungle de la justice française. À travers son métier, elle cherche à réparer les injustices que subissent ces jeunes migrants, déjà traumatisés par un long exil. Et quand la justice ne fait plus son travail, c'est en citoyenne engagée qu'elle les prend sous son aile et poursuit son combat. Notre objectif pour cette soirée est d'essayer de changer le regard que nous portons trop souvent sur ces jeunes qui concrètement travaillent chez des artisans ou dans des métiers d'aide à la personne et sont en général très appréciés car sérieux et volontaires. En classe de remise à niveau, ils sont souvent montrés en exemple par les professeurs pour leur volonté d'apprendre. Ils ont fui la misère, la guerre, les mariages forcés ou la violence. Ils ont souvent vécu l'enfer dans leur parcours migratoire et ont un désir profond de vivre en paix et de travailler. La Journée mondiale du réfugié est une journée internationale instituée par les Nations unies pour rendre hommage aux personnes réfugiées à travers le monde. Elle a lieu chaque année le 20 juin et permet de mettre en lumière les droits, les besoins et les rêves de celles et ceux qui sont contraints de fuir leur foyer. Joignez-vous à nous à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié et témoignez de votre solidarité avec les personnes contraintes de fuir. Donc venez jeudi 20 juin à partir de 18h30 au Cine-Étoile de Digne-les-Bains pour regarder ce très beau documentaire « Un pays de papier » et puis assister et participer au débat qui suivra ce film. Dès les premières minutes du film, on comprend que ceux et celles qui sont amenés à s'adresser à Mélanie, le verger, ont des histoires de vie complexes, tragiques, qu'ils ou elles ont fui. Dès les premières minutes du film, on comprend que ces histoires singulières de déchirure, de drame, figurent l'histoire d'une multitude invisible ou invisibilisée qui, en arrivant en France, n'est pas forcément bienvenue et encore moins accueillie. Au long du film, ce sont quelques destins que nous partageons en suivant les voix qui racontent de dos face à l'avocate. Il est bien sûr dans ce dispositif question de protéger les protagonistes et leur identité, de les protéger aussi en tant que mineurs. Mais il est aussi question de manière plus implicite de pudeur, de distance et de quelque chose qui se transforme par la voix en quelque chose de pénétrant. Nous ne sommes pas invités à l'empathie par l'image, l'attention aux détails des visages ou des expressions. C'est le récit qui prend le dessus. Et nous avons aussi peu de place pour l'a priori que celle de se refuser à garder l'avocate en recevant ces personnes pour les accompagner. C'est Franck Vial, qui est un directeur de film en Bretagne, qui nous dit cela. Charge à elle, à l'avocate donc, à l'écoute des faits, de les connecter à la loi, de les porter dans l'idée qu'elle se fait d'un état de droit, avec sans doute à l'origine de son engagement une idée noble d'un pays comme la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme. Mais cette idée noble de départ est aussi à l'origine d'un combat. Quand l'état de droit se frotte et se pique à la réelle politique, à des logiques gestionnaires et ou pratiques qui font bien peu de cas de la justice, des droits et de l'altérité. Un mot intéressant ici à situer, l'altérité. Parce que l'avocate est une fonction et une compétence du métier, mais on comprend aussi très vite que l'altérité est une certaine vision du monde, l'anime au-delà de sa fonction et de sa compétence. Elle est à l'écoute, ouvre des portes, cherche les possibilités pour des mineurs, le plus souvent livrés à eux-mêmes, traumatisés, perdus. Au-delà de toute considération technique, elle fait en sorte d'être rassurante, accueillante, protectrice. Ce film, parmi d'autres films qui se sont appliqués à travailler sur ce sujet, est une sacrée piqûre de rappel quant à ce qui constitue normalement le fondement de notre démocratie, quant aux forces vives qui luttent au fil du temps pour en défendre les principes, quant à la puissance de tels engagements. Et ça fait beaucoup de bien, l'affirmation de ces principes et ces petites victoires, parce que nombre de personnes que Mélanie a accompagnées ont fini par trouver une issue, fait énormément de bien. Bien entendu, il y a des moments de grande solitude, de découragement profond, de désillusion violente. Mélanie dit ne plus croire en la justice parfois. Au vu de l'énergie qu'elle déploie, de convictions intactes, malgré le temps qui passe, il est sûr néanmoins qu'elle croit dans l'outil du droit et à la capacité de celles et ceux qui portent des intentions humaines de mettre cet outil au service de nobles causes. Le film suit Mélanie comme elle vient, dans son cabinet, en voiture, dans son jardin. Dans ce jardin se joue peut-être, au-delà de l'intention première du film et de son tournage, quelque chose de doucement voltairien. Il faut cultiver son jardin, disait Candide. Ce qu'on peut en déduire, c'est que l'avocate a les pieds bien sur terre, elle est bien ancrée dans ses convictions, avec sans doute la foi dans la résilience des arbres. Voilà, donc je vous invite vivement à venir voir ce très beau film Un pays sans frontières et participer à notre débat en présence d'une avocate dinoise qui soutient, qui défend les mineurs non accompagnés qui sont, dont la minorité parfois est remise en cause, comme c'est le cas en ce moment d'un jeune qui risque de se retrouver à la rue le temps de son recours.
Donc un pays de papier.
Ouais. Jeudi
20 juin à 18h30 au Cinétoile à Digne-les-Bains.
Voilà, en présence, donc organisée par RESF, Amnesty International et soutien aux jeunes isolés étrangers. Donc nous aurons des stands d'information dans le hall, le film, le débat avec une avocate et puis ensuite on pourra continuer à discuter autour d'un verre après le débat dans le hall. Voilà, on va maintenant écouter encore une chanson de Françoise Hardy, Le premier bonheur du jour.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe, mais bien vite tu reviens. La vie reprend son cours, le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.
Voilà, donc pour vous résumer les activités du groupe dinois d'Amnesty International, donc je vous rappelle le 20 juin, jeudi 20 juin à 18h30, le ciné-débat autour du film Un pays de papier en partenariat avec RESF et soutien aux jeunes isolés étrangers. Le mardi 25 juin, c'est notre réunion mensuelle. Donc si vous voulez assister à une de nos réunions, il n'y a aucun problème. Nous vous accueillerons volontiers. Vous contactez la radio ou vous me contactez. Et puis le mercredi 3 juillet, à partir de 18h, Amnesty International participera avec de nombreuses associations de solidarité, à ce qu'on appelle la fête de la solidarité sur la place Charles de Gaulle à Digne-les-Bains, donc mercredi 3 juillet. Voilà, un petit mot sur notre journal qui s'appelle La Chronique, le magazine des droits humains. Chaque mois, la chronique d'Amnesty International vous éclaire sur l'actualité des droits humains. Un tour du monde des combats, des victoires, de celles et ceux qui défendent ces droits. La chronique, c'est 52 pages d'informations, des enquêtes, des reportages de terrain, des entretiens et des récits inédits. Dans nos pages, des journalistes, des photographes, de talents, mais aussi des artistes, décryptent les menaces qui pèsent sur nos droits fondamentaux. Tout en s'adressant au plus grand nombre, ils livrent une lecture sensible et fiable. Une information 100% indépendante. S'abonner à la chronique, c'est soutenir un journalisme de qualité et indépendant. Sans publicité, notre magazine vit uniquement grâce au soutien de ses lecteurs et lectrices. Lire la chronique, c'est accéder à une information qui donne des clés pour comprendre, c'est agir en faveur des droits humains. Donc l'abonnement, c'est 3 euros par mois ou 36 euros pour 10 numéros. Vous pouvez vous abonner en ligne sur amnesty.fr. Vous tapez chronique. J'ai aussi mis des exemplaires papier d'abonnement et de présentation de la chronique à la médiathèque de Digne. Et vous pouvez également, à la médiathèque, consulter les chroniques anciennes, parce que nous avons abonné cette médiathèque à notre journal. Donc vous pouvez aller à la médiathèque de Digne pour voir un petit peu comment il est construit. Je vous invite vivement à le découvrir, parce que ce que certains voudraient cacher, nous, on l'écrit. Voilà, on termine cette émission par Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires.
Je ne sais pas.